Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un parcours de vie finalement où on se reconnecte à qui on est au plus profond de soi, c'est l'expérience de ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hafida Akanour, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque la Hafida.
Tout va très très bien. C'est un plaisir de parler et de faire cet entretien avec toi.
Eh ben, le plaisir est partagé. Alors, Hafida, j'ai l'impression que toi, en fait, tu as deux vies professionnelles. Une vie où tu étais dans la banque.
Mm-hmm.
Et une vie où tu passais à autre chose, en fait, où tu t'es presque éloignée de la finance.
Alors, en fait, moi, je suis une banquière pure, on va dire. C'est-à-dire que toute ma carrière, elle a été faite dans la banque pendant 27 ans. Donc, de la gestion d'actifs à la gestion des risques bancaires. Donc au début, c'était de la finance, on va dire, pure à travers les marchés financiers, la gestion d'actifs. Et par la suite, c'était à travers une casquette de consultante pour des grands projets de transformation dans la banque et ce genre de choses. Et
alors déjà, déjà, sortir de la banque pour devenir consultante, sortir du salariat pour le conseil. Pourquoi tu as fait ce choix?
Alors, en fait, c'était limite un choix qui s'est un peu imposé à moi. J'ai vécu l'âge d'or de des marchés financiers. J'étais sur les marchés financiers de 98 à 2007. Et en fait, c'était la phase où on a eu la grosse bulle technologique et on a eu le crack boursier en 2004. Et donc, en fait, j'ai eu la chance de vivre ce que les gens vivent sur une vingtaine d'années sur les marchés financiers, en moins de temps, on va dire. Et bien entendu, suite à cette crise de 2004-2005, j'ai eu un choix à faire. C'était soit de partir de Paris à La Haye ou à Bruxelles pour suivre ma boîte, ou quitter avec un chèque. Et j'ai choisi le chèque.
Oui.
Voilà, donc en faisant ce choix-là, je pensais que j'allais facilement pouvoir me replacer sur les marchés sans problème, surtout que j'avais un bon track record compte tenu de mon âge, de mon expérience, des choses comme ça. Donc j'avais à peu près une dizaine d'années d'expérience. Mais en réalité, sur les marchés financiers, 10 ans d'expérience, c'est très jeune. C'est rien. Et les gens se déplacent par table, hein, c'est-à-dire les équipes qui se déplacent. Ce n'est pas une personne qui sort d'un groupe et qui va quelque part. Les gens, ils bougent vraiment par équipe. Et donc, retrouver une équipe où je pouvais m'intégrer a été un peu compliqué. Et le conseil s'est présenté à moi par hasard. Et je me suis retrouvée consultante, justement, à Bruxelles.
Excellent.
Pour une société de gestion d'actifs, mais c'était plutôt justement avec la casquette organisationnelle, stratégique, plutôt que sur les écrans de marché financier. Et voilà, et cette aventure m'a mené justement à quasiment une vingtaine d'années dans ce beau monde de conseils avec des gens extraordinaires. Et j'ai appris tellement de métiers que j'aurais jamais pu toucher ou même approcher si j'étais restée sur les marchés financiers.
Alors, voilà. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, justement?
Alors, ce qui s'est passé, justement, c'est il y a une quinzaine d'années. Donc, mon mari a eu l'opportunité de retourner au Maroc pour un poste avec l'entreprise avec laquelle il était à l'époque. J'ai fait pendant 7 ans des allers-retours entre Casablanca et Paris avec mon fils et mon mari qui sont à Casa et moi à Paris 4 jours par semaine. Et, Et au bout de voilà, des 7 ans, j'ai commencé à me dire, bon, il faut un moment se poser quelque part. Et je me posais la question, en fait, je cherchais, en gros, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que le conseil. Parce que j'appréhendais un petit peu de continuer dans le conseil au Maroc, dans le secteur bancaire, qui était assez, à l'époque, qui était assez atone, on va dire. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très dynamique, mais il y a 15 ans, c'était pas du tout le cas. Et du coup, bah, j'ai été voir un coach pour m'aider à réfléchir, à avoir une vision. Et à travers les discussions que j'ai pu avoir avec cette personne, qui était vraiment extraordinaire et d'un grand niveau, elle m'a tout de suite identifiée justement comme une personne qui a une facilité à faire de l'accompagnement.
Ok.
Et, je ne connaissais pas du tout ce métier, je ne savais même pas ce que c'était en réalité. Et donc, elle m'a dit, ben non, en fait, dans votre manière de faire du conseil, le fait de pousser les gens, de les sortir un petit peu de leur zone de confort, de les aider à voir au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et bien ça, c'est du coaching. Donc, vous le faites avec votre casquette de consultante, mais en réalité, c'est ça le coaching. Je dis, bah, c'est génial, je pourrais faire ça. Et donc, elle m'a dit, bah oui, donc vous avez tout le potentiel, faites-vous une formation. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement approcher le marché marocain avec cette casquette. Et c'est parti de là. 15 ans après, j'étais toujours consultante dans la banque, ça ne s'est pas arrêté. Le coaching a commencé en parallèle. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que toutes les personnes qui m'entouraient et qui me connaissaient dans la banque, quand je leur disais, voilà, je me mets à faire de l'accompagnement, ils trouvaient ça totalement naturel. Pour eux, c'était une évidence. C'est moi.
C'est incroyable, en fait, finalement. C'est qu'on dit quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis. Et toi, finalement, ton inné, tu l'as découvert C'est quelqu'un qui t'a aidé à le découvrir et tu en as fait ton parcours professionnel aujourd'hui.
Tout à fait, exactement. Et en fait, ce qui est assez, assez extraordinaire, c'est qu'en réalité, si vous observez vous-même, on est tous un petit peu accompagnateurs. Hein. C'est-à-dire oui. Quand vous donnez des conseils à vos amis, quand vous êtes là à les écouter, à les aider à dépasser une crise professionnelle ou autre, et bien, en fait, vous faites de l'accompagnement. Ce qui crée la différence, à mon sens, c'est bien entendu l'acquisition de techniques, et ça, c'est très important, mais surtout, c'est l'expérience. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, plus vous allez le pratiquer, plus ça va vous faire découvrir des capacités en vous-même qui sont utiles aux autres. Et ça rejoint une de mes convictions, c'est-à-dire qu'on rencontre jamais les gens par hasard. On n'est pas dans ce monde comme ça, de manière
anodine, aléatoire.
Anodine, on va rencontrer des gens juste parce que voilà, ils sont passés à côté ou est-ce que voilà, on est allé dans dans un événement. Non, en fait, chaque personne que vous rencontrez à un instant donné, elle a quelque chose pour vous et vous avez quelque chose pour elle. Ça peut être minime selon nos critères, mais en réalité, c'est ce qui vient ajouter de l'eau à votre moulin, c'est ce qui vient aider dans votre trajectoire. Et en fait, une fois qu'on accepte ça, entre parenthèses, on arrive à l'intégrer, et en fait, l'approche de la relation humaine, elle devient complètement autre.
Absolument, absolument.
Et ça aide beaucoup, en fait. Ça aide beaucoup justement à bien bénéficier de cette expérience d'accompagnement qu'on peut faire avec les uns et avec les autres. Et en fait, à travers toute cette observation, hein, donc une quinzaine d'années d'accompagnement, j'ai fait à peu près tout ce qui est faisable dans ce domaine. Et pour aujourd'hui, me concentrer plus sur l'accompagnement des dirigeants et comités de direction à travers une méthode. Que j'ai créé, en fait un parcours, entre parenthèses, qui permet justement de mettre l'humain au centre.
Et la méthode s'appelle PACT, c'est ça?
Ça s'appelle PACT, exactement. PACT. C'est puissance, alignement, connexion et transition.
Ouais.
Donc, en fait, cette méthode, bien sûr, elle est pas, je veux dire, j'ai pas créé le coaching à travers cette méthode, pas du tout. Au contraire, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se fait. Mais l'idée de cette méthode, elle va au-delà des techniques classiques qu'on a l'habitude d'avoir dans l'accompagnement. Elle va aller vraiment creuser dans les aspects neuroscientifiques de la personne. Et du dirigeant en particulier, et aussi les convictions, ou en tout cas la dynamique spirituelle que peut avoir un dirigeant. Et pourquoi cette orientation c'est parce que, justement, en observant et en travaillant sur des programmes de transformation, l'autre jour, j'ai calculé, je crois que j'en ai fait 17 transformations dans ma vie.
Ouais.
Et en fait, les gens... Et les pairs, c'est d'abord de ne pas assez se connaître, de ne pas être capable justement de faire cette introspection par rapport à eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent à travers ce qu'ils sont en train de faire, vers quoi ils veulent aller. Et la deuxième, c'est qu'on n'est jamais en concurrence avec qui que ce soit.
Et ça, c'est-à-dire
c'est super important parce que quand vous êtes dans un comité de direction, peut vous assurer que vous portez, quand vous les observez, ils vont tous essayer de porter à un moment donné un masque pour pouvoir correspondre à une image qu'ils se font d'un membre d'un comité de direction.
Oui.
Et ça, c'est dommage. Parce
essayer d'incarner, en fait, le stéréotype.
Exactement. C'est-à-dire que si moi, je suis un membre du comité de direction et que, bah, je ne sais pas, je suis responsable de l'IT, par exemple, il faut non seulement que j'incarne ma responsabilité de la team, mais il faut que je sois aussi capable de parler du domaine de l'autre avec, à la limite, sa façon à lui de faire pour le dépasser.
Mmh.
Donc, en fait, ça devient juste une cacophonie qui n'aboutit absolument à rien et qui crée justement des tensions. Et souvent, on démultiplie les réunions et les comités sans vraiment aboutir à une solution. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on se découvre à travers ce qu'on est vraiment et qu'est-ce qui fait de nous un être, ce que j'appelle un être puissant, au-delà d'un être de pouvoir, parce que le pouvoir, oui, vous l'avez à travers votre positionnement. Vous êtes dans un comité de direction, donc vous avez beaucoup de pouvoir. Mais par contre, est-ce que vous êtes puissant Ça c'est vraiment ce que vous incarnez.
Mmh.
Ça, c'est ce que les gens voient. Est-ce que vous avez envie, justement, et c'est là qu'on revient sur le leadership, est-ce que vous donnez envie aux gens de vous suivre? Là, vous êtes puissant.
Mmh.
Et en général, la personne puissante dans une organisation, c'est une personne que tout le monde identifie comme telle. Et tout le monde va aller la chercher pour une typologie de problématique donnée, et on va aller vraiment le trouver parce qu'on sait que c'est cette personne qui sait le mieux que quiconque résoudre ce problème.
Alors, en fait, ce que tu es en train de faire, Haveda, c'est que tu es en train de me donner l'eau à la bouche par rapport à ce sujet, mais en fait, ça, c'est le contenu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenant, c'est toi. Mais je vais quand même poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Et justement, est-ce que c'est ça, le leadership? C'est cette personne qu'on vient chercher.
C'est ça. Pour moi, le leadership, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui fait notre différence, qu'est-ce qui fait cette touche unique que nous avons et dont les autres ont besoin.
Mmh.
Parce que si vous faites comme tout le monde, vous êtes remplaçable, entre parenthèses.
Donc,
quand on dit que nul n'est irremplaçable, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que si c'est des compétences, si ce sont des choses acquises, tout le monde peut les acquérir. Il n'y a pas de limite à ça.
Mmh. Ce qui fait la différence, c'est comment cette personne...
Comment vous le faites?
Exercer, en fait, sa mission, exactement. Alors, je voudrais peut-être aussi qu'on parle du podcast que vous produisez.
Oui.
Ça s'appelle CEO's Enlightenment Podcast.
Enlightenment, voilà. Exactement.
Et donc
ouais.
Dites-moi.
Alors, en fait, ce podcast, il est justement venu dans la lignée de toute cette méthode et de cette façon de faire que j'essaye de mener à bien depuis maintenant 2 ans. Et l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant justement ce qui distingue les patrons, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, dans leur démarche, mais au-delà de leurs compétences. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les compétences, on peut les acquérir. Et tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, vous ou moi, en 30 jours ou en 90 jours, on est capable de l'apprendre et de la faire presque de la même manière. Mais ce qui fait la différence et ce qui fait qu'il y a un succès ou pas succès, c'est quand vous êtes dans votre puissance propre et que vous êtes aligné dans tout ce que vous faites avec cette puissance. Et ça les gens qui atteignent des niveaux de responsabilité élevés, ils savent qu'ils l'ont.
Et toi,
ça les habite.
Et toi, ça te fait quoi d'animer ce podcast? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Alors, ce qui m'apporte, parce que en fait, ça me réconforte dans des choses que je crois et que j'essaie de tester, que ce soit à travers mes accompagnements ou à travers ces discussions avec des patrons. Et surtout, en fait, que pour moi, ça permet de donner à tous nos jeunes un modèle différent de ce qu'ils ont l'habitude de croire. Il ne faut pas avoir fait forcément Polytechnique, HEC pour atteindre des niveaux de responsabilité élevés. Mais par contre, quand on sait vers quoi on veut aller et qu'on utilise tous ces moyens et qu'on est connecté, que ce soit avec soi ou avec l'univers et avec les autres, et ben, au fait, les choses se font à la limite seules. Mmh. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, quand je pose la question à mes invités, et je leur dis qu'est-ce qui a fait que vous avez eu tout ce succès. Et en réalité, en fait, ils ne sont pas capables de donner une démarche.
Oui. C'est pas une recette magique, en fait. Sinon, tout le monde pourrait l'appliquer.
Exactement. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tout le monde ne peut pas trouver cette recette. Mais par contre, en chacun, il y a cette possibilité d'exceller, justement. Mmh. Il n'y a pas de stéréotype. Il n'y a pas un modèle de super patron. Il n'y a pas.
Alors, Hafeda, justement, en parlant de réussite, est-ce que toi, tu considères, justement, que tu fais partie de ces enlightened CEOs?
Alors, j'ai géré plusieurs entreprises et j'en ai créé quelques-unes. Et je pense aujourd'hui que justement je fais partie de ces personnes, on va dire, éclairées, mais c'est un chemin, justement. En fait, ce n'est pas un aboutissement. Et ce chemin, il est continu, entre parenthèses. C'est-à-dire que tant que vous avez de l'ambition, tant que vous avez des choses que vous avez envie de réaliser, et bien ce chemin-là, il est assez ouvert devant vous. Il y a un exemple en fait que j'aime beaucoup utiliser dans ce genre pour imager ce que j'entends par là, c'est que jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, la plupart des chefs d'entreprise ou des patrons ou des grands managers, ils se basent justement sur leur acquis technique. Ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils ont appris en entreprise, les formations qu'ils ont pu faire, ce genre de choses. Et donc, ils atteignent un premier sommet. Et une fois qu'ils ont atteint ce premier sommet, en général, ils sont assez établis et il leur manque quelque chose. Mmh. Ils savent très bien qu'ils peuvent aller au-delà, ils savent très bien qu'ils peuvent faire quelque chose de plus grand, mais il leur manque un souffle. Et ce souffle-là, pour moi, il vient justement de cette connexion, de cet éclairage, enlightenment, en fait,
oui.
Qui leur permet d'aller puiser la vraie énergie ailleurs, sur eux-mêmes, d'accord? Parce qu'il n'y a qu'à travers cette énergie-là, et en utilisant cette énergie-là, on devient en mission pour les autres. Et pour répondre du coup à ta question,
ouais.
Oui, en fait, je considère que je le suis, dans le sens où jusque-là, ma carrière, elle a été bâtie sur des, voilà, sur des connaissances, sur de l'expérience, sur des choses que j'ai faites, de ce que moi j'ai appris des autres. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est mettre tout ça au service d'eux, et au service des autres. Et pour moi, justement, atteindre ce deuxième sommet ne peut se faire que quand on est au service des autres. Et c'est ce qui se passe justement avec la majorité des patrons qui aujourd'hui sont dans leur deuxième, troisième succès.
Quand tu dis au service des autres, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire apporter de la valeur à autrui. C'est-à-dire quand vous êtes dans une entreprise, souvent quand vous posez la question à un grand patron justement qui est bien établi, il va vous dire que moi, ce que je cherche, c'est pas, j'ai plus besoin d'avoir une autorité, je n'ai plus rien à prouver à personne. Tout ce que je veux, c'est que les gens voient, créer de l'impact. Par rapport à ces personnes que je gère et les aider à justement aller de l'avant, aider l'entreprise à être encore plus apporteur de valeur dans le secteur économique, dans le marché et dans lequel elle est.
Hafeda Kanour, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine, c'est un grand plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.